VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 4 mai 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia.
Et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Appel à une journée ville morte ce vendredi en République centrafricaine.
Au Tchad, démission du Premier ministre et de son gouvernement, promulgation aujourd'hui de la nouvelle constitution.
Affaire Bolloré, le président de la Guinée, Alpha Condé, va porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse.
À Madagascar, la justice a annulé une partie des lois électorales contestées par l'opposition.
Téhéran a répété hier qu'il n'a aucune intention de renégocier l'accord sur le nucléaire iranien.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, la société civile appelle à une journée de protestation ce vendredi, une journée ville morte pour dénoncer, selon elle, l'incapacité des autorités à mettre fin aux violences dans le pays. De Bangui, Freeman Sipila, correspondant de VOA Afrique.
Cet appel, lancé principalement par le groupe de travail de la société civile GSTC, intervient alors que le pays observe depuis hier un deuil national de 3 jours. Les organisateurs veulent à travers cette mobilisation passer à la vitesse supérieure pour dénoncer la persistance des violences. Paul Cresson Beninga, porte-parole du GSTC.
L'heure est grave, c'est pourquoi nous avons appelé à une ville morte. Au sortir de la journée ville morte, il faut qu'on procède dans la même soirée à un concert de casseroles, toujours dans l'intérêt de manifester notre mécontentement. Notre désaccord par rapport à ce qui se passe dans le pays.
À Bangui, les réactions divergent sur cet appel à l'observation d'une journée ville morte. C'est le cas de l'OFCA, l'Organisation des femmes centrafricaines, qui n'en voit pas d'importance. Annette Wango, sa vice-présidente.
Comment être dans un état de tristesse et se mettre à faire un concert de casseroles? Nous sommes des centrafricains et nous sommes des Africains. Par exemple, dans mon village, quand il y a un cas de deuil, c'est le silence. On ne peut pas faire le bruit. C'est pour cette raison qu'au niveau de l'UFCA, nous avons dit que ce n'était pas opportun.
Reste à savoir si l'appel du GSTC aura un écho favorable auprès des Centrafricains. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad, le Premier ministre Albert Pahimi Padake et son gouvernement ont démissionné hier, conformément à la nouvelle constitution. Celle-ci renforce les pouvoirs du président avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans Premier ministre ni vice-président. Cette nouvelle constitution annonçant la 4e République tchadienne, adoptée lundi par le Parlement, devrait être promulguée vendredi par le chef de l'État Idriss Déby Itno au cours d'une cérémonie officielle. Le Conseil constitutionnel a rejeté hier le recours en annulation déposé mercredi par 26 députés de l'opposition.
En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé hier qu'il va porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse dans le cadre du dossier Vincent Bolloré. L'homme d'affaires français est inculpé pour corruption, notamment dans l'attribution de la concession du port de Conakry. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
« Je vais porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse », a lancé sans plus de détails Alpha Condé à l'occasion hier de la Journée mondiale pour la liberté de la presse. Il a reproché aux journalistes guinéens de n'avoir pas joué leur rôle. « Vous n'avez jamais protesté quand on raconte des histoires sur votre pays parce que vous continuez à désinformer. C'est à Paris qu'on va s'expliquer parce qu'aucun de vous n'a cherché à savoir la vérité », a lancé M. Condé. Son ministre de la Justice, Cher Sako, avait pourtant assuré que la Guinée allait collaborer avec la France dans cette affaire. Le président Condé, peu après son arrivée au pouvoir en 2010, avait résilié la gestion du terminal du port de Conakry octroyé en 2008 pour 25 ans à Guetman pour la confier au groupe Bolloré. Les magistrats français qui ont inculpé Vincent Bolloré tentent de déterminer si son groupe a utilisé les activités de sa filiale Havas pour obtenir la gestion des ports de Conakry et Lomé. Le groupe Bolloré a démenti ces accusations. Le 26 avril, la Commission nationale d'enquête administrative guinéenne a démenti toute implication d'Alpha Condé dans l'octroi du terminal à conteneurs de Conakry au groupe Bolloré.
En Côte d'Ivoire, 18 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une affaire d'importation frauduleuse des véhicules de luxe, a annoncé hier le procureur de la République, Richard Adou, évoquant un préjudice de près de 5 millions d'euros subi par l'État. Les personnes parmi lesquelles des agents du ministère ivoirien du transport et du commerce sont incarcérés et poursuivis pour détournement, blanchiment, faux et usage de faux. Selon le mensuel ivoirien L'éléphant déchaîné qui a révélé l'affaire, La plupart des voitures sont des véhicules de luxe ou de haut de gamme.
Au Sénégal, un imam célèbre a affirmé hier, dans le cadre de son procès à Dakar, avoir ignoré que plusieurs milliers d'euros qui lui avaient été remis en 2015 provenaient de membres présumés des organisations djihadistes Boko Haram et État islamique. Et il s'est déclaré en faveur d'un islam pacifique. Alioune Dao, 58 ans, est le dernier des 29 prévenus à être interrogé lors de ce procès placé sous haute surveillance et qui a débuté le 9 avril.
La haute cour constitutionnelle malgache a annulé une partie des nouvelles lois électorales à l'origine des manifestations de l'opposition qui visent depuis près de deux semaines le régime du président Héry Ajao Narimaan Pianin. Selon une décision postée sur son site internet, la plus haute instance judiciaire malgache a jugé contraire à la Constitution plusieurs dispositions de ses textes, notamment sur la révision des listes électorales, la durée des campagnes et l'utilisation des bulletins uniques.
En Afrique du Sud, plusieurs dizaines de milliers de mineurs atteints de silicose et de tuberculose vont être indemnisés en vertu d'un accord historique de montant de plus de 5 milliards de randes avec plusieurs géants du secteur minier. Des détails avec Jacques Aristide.
Cette transaction, la première du genre dans le pays, a été conclue au terme de trois années d'intenses négociations. Les 5 milliards de randes, près de 395 millions de dollars, correspondent aux provisions déjà budgétisées par les groupes miniers African Rainbow Minerals, Anglo-American, Anglo-Gold Ashanti, Harmony Gold, Goldfields et Sibanye Stillwater. La somme pourrait augmenter en fonction du nombre de plaignants éligibles, d'après un avocat qui a participé aux négociations. Plus de 100 000 travailleurs dans les mines d'or d'Afrique du Sud depuis 1965 pourraient être indemnisés. Les veuves des mineurs décédés de silicose ou de tuberculose seront également éligibles à des dédommagements. Surnommé le mal des mineurs, la silicose affecte les poumons de manière irréversible, mais est évitable en portant des équipements de protection. Les mineurs affirment avoir contracté la maladie en étant contraints par leurs employeurs de travailler pendant des années dans des conditions jugées dangereuses.
Au Mozambique, Afonso Dhlakama, ancien chef rebelle et leader du principal parti d'opposition, la RENAMO, est décédé hier à l'âge de 65 ans. Le point avec Jean-Roger Bion.
La chaîne de télévision locale TIM a annoncé son décès sans préciser les causes, mais plusieurs sources affirment qu'il a succombé à une crise cardiaque. Afonso Dhlakama a dirigé pendant 39 ans la RENAMO. Son mouvement rebelle a combattu le Frelimo au pouvoir jusqu'à la fin de la guerre civile en 1992 avant de devenir un parti politique d'opposition. Après avoir perdu plusieurs fois aux élections, la RENAMO a repris les armes en 2013 pour contester la mainmise du Frelimo sur la vie politique depuis l'indépendance en 1975. Depuis la reprise des hostilités, Afonso Dhlakama vivait retranché dans les montagnes de Goronkosa, dans le centre du pays. À la fin de 2016, il avait proclamé un cessez-le-feu pour faire avancer des négociations de paix avec le président Philippe Nyusi. Cette trêve est largement respectée, mais aucun accord formel n'a encore été signé entre les deux parties. Des élections générales sont prévues en octobre 2019.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont promis de tenir la Chine responsable de ce que des officiels ont appelé une utilisation dangereuse et irresponsable de lasers près d'une base américaine à Djibouti en Afrique. Il y aura des conséquences à court et à long terme, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders. Elle répondait à une question sur le recours à des pointeurs laser de type militaire pour cibler à plusieurs reprises des appareils américains depuis la base militaire chinoise de Doralé. Deux pilotes américains ont subi des blessures aux yeux. La Chine n'a pas encore réagi à ces accusations, mais Pékin s'est plaint par le passé, je cite, d'avions espions étrangers survolant ses installations à Djibouti.
Toujours à Washington, la porte-parole de la Maison-Blanche a reconnu avoir appris mercredi soir, en même temps que le reste des Américains, que le président Donald Trump avait remboursé à son avocat les 130 000 dollars que ce dernier avait donné à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels pour acheter son silence. Et c'était peu avant l'élection de 2016. Cette dernière, Stormy Daniels, affirme avoir eu une liaison avec M. Trump. Le président Trump avait lui-même confirmé dans un tweet hier ce remboursement révélé la veille dans une interview à Fox News par son nouvel avocat Rudy Giuliani, qui contredisait ainsi ses précédentes déclarations à ce sujet.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a répété hier que Téhéran ne va pas renégocier son accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 avec les grandes puissances. Le président Trump doit annoncer dans quelques jours si les États-Unis vont se retirer ou non de cet accord. Pour le chef de la diplomatie iranienne, il n'est pas question que pour les Iraniens d'ajouter quoi que ce soit à un accord qu'ils appliquent déjà de bonne foi. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Les experts de la CEAC et de la CEMAC et des représentants du secteur privé se sont réunis à Pointe-Noire au Congo pour établir un meilleur cadre de commerce avec l'extérieur. Ils ont validé la création du comité régional de la facilitation des échanges en Afrique centrale et adopté sa feuille de route. La conférence ministérielle de Bali en Indonésie en 2013 a permis à l'OMC d'adopter l'accord sur la facilitation des échanges. Il est entré en vigueur en février 2017. Le Trésor public camerounais multiplie des émissions de titres sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Yaoundé veut lever 7 milliards de francs CFA. C'est la troisième opération de mobilisation de fonds effectuée en l'espace de 3 semaines. Le 18 avril dernier, le Trésor public camerounais a eu 7 milliards de francs CFA. Le 25 avril, il a tenté de lever 10 milliards de francs CFA. Mais les résultats n'ont pas été révélés. Ces transactions témoignent de tensions de trésorerie. Le Nigeria a conclu un accord d'échange de devises avec la Chine. Abuja devrait recevoir plus de 2 milliards de dollars en contrepartie de 720 milliards de naira versés à Pékin. Cet échange de devises devrait durer 3 ans entre les deux pays. Le Nigeria espère booster ses rapports commerciaux avec la Chine en facilitant les règlements commerciaux bilatéraux.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Al Ahly reçoit l'Espérance de Tunis ce soir en Ligue africaine des champions.
Le National du Caire accueille l'Espérance sportive de Tunis à Borj El Arab en ouverture des phases de poule de la Ligue africaine des champions. À suivre aussi ce soir, Township Rollers du Botswana, Kampala City de l'Ouganda et l'autre choc entre le MC Alger et Difa El Jadidi du Maroc.
En Éthiopie, le championnat de football a été suspendu après l'agression de arbitre.
La Fédération éthiopienne de football a décidé de suspendre d'une semaine les championnats pour donner du temps aux différents acteurs du football de discuter des problèmes récurrents de sécurité lors des matchs. La Fédération dit aussi vouloir rencontrer le corps arbitral dont l'association s'est réunie hier et a décidé d'une grève de 3 semaines. Les hommes en noir réclament entre autres la prise en charge des frais d'assurance médicale.
Neymar arrive à Paris aujourd'hui.
Et oui, l'attaquant vedette du PSG rentre à Paris 2 mois après son opération au pied droit pour achever sa convalescence. Neymar, 26 ans, s'est blessé le 25 février lors du choc contre l'Olympique de Marseille et a notamment manqué le 8e de finale retour de Ligue des Champions. Perdu contre le Real Madrid 1-2, il a été opéré d'une fracture d'un os du pied droit au Brésil par le médecin de la Seleção qui avait estimé que la star brésilienne serait indisponible entre 2 mois et demi et 3 mois.
Athlétisme, la Fédération sud-africaine d'athlétisme a saisi le tribunal arbitral du sport.
Tout à fait Idrissa, la semaine dernière on le rappelle, l'IAF a annoncé qu'à compter du 1er novembre 2018, les athlètes féminines atteintes d'hyperandrogénie devront faire baisser avec des médicaments leur taux de testostérone si elles veulent participer aux épreuves internationales du 400 mètres et plus. Eh bien, cette nouvelle réglementation a provoqué un tollé en Afrique du Sud où elle a été interprétée comme un moyen de ralentir la double championne olympique sud-africaine, Caster Semenya. La nation arc-en-ciel a donc décidé de combattre ce nouveau règlement de l'IAF. NBA, pour terminer avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en play-off.
Cleveland a battu pour la 2e fois consécutive Toronto, 128 à 110. LeBron James a marqué 43 points et enregistré 14 passes décisives. Son équipe mène la série de ce second tour, 2-0. Toujours en conférence Est, Boston mène de son côté Philadelphie 2-0, après avoir battu les Sixers 108-103.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Retour sur le sort du général Jean-Marie Mokoko, détenu au Congo-Brazzaville depuis la présidentielle de 2016 qu'il avait perdue. Ses avocats ont saisi les instances internationales pour détention arbitraire. Marc Mapingu, représentant de l'ancien candidat, compte se rendre bientôt ici aux États-Unis et au Royaume-Uni pour plaider la cause du général. Pour lui, c'est le début d'une campagne internationale pour sa libération. Joint par Bagassi Koura, il parle des conditions de détention de Jean-Marie Mokoko.
Le général Jean-Marie Michel Mokoko se porte comme un prisonnier. C'est un prisonnier qui ne voit pas la lumière du jour. C'est un prisonnier qui vient de perdre sa sœur hier même et qui ne verra hélas pas comment vont s'organiser les obsèques de sa sœur. C'est un prisonnier qui est malheureusement dans une situation où il ne peut pas se défendre sérieusement parce qu'il est prisonnier dans un état voyou, c'est-à-dire dans un état qui ne respecte pas le droit et qui ne respecte pas la justice.
On dit qu'il a des problèmes de santé, qu'il est détenu dans des conditions difficiles.
Oui, bien sûr. Depuis le premier jour, il est détenu dans des conditions difficiles. Nous savons bien que le général et les Congolais le savent.
Et donc, c'est pour ça que vous et les avocats du général Mokoko, vous vous êtes tournés vers les Nations Unies. Expliquez-nous vos attentes.
Écoutez, déjà, nous avons voulu internationaliser le problème de Mokoko et le problème de tous les détenus politiques. Dans le cas de Mokoko, nous avons épuisé toutes les voies de recours internes et ayant épuisé toutes ces voies, nous avons compris qu'il fallait se tourner vers le groupe de travail de l'ONU pour la détention arbitraire, pour lequel on demande donc au gouvernement congolais de l'injonction de libérer le général Mokoko.
Et vous comptez donc, aussi saisir la Commission africaine des droits de l'homme?
Voilà, nous allons aussi nous diriger vers le comité des droits de l'homme pour les mêmes causes.
Que ce soit les Nations Unies ou l'Union africaine, ces instances émettent des avis non contraignants. Qu'est-ce que vous recherchez concrètement?
Ce que nous recherchons pour être objectif, c'est de dire à ces organismes que nous avons des prisonniers politiques dans ce pays qui sont injustement incarcérés et que nous avons besoin qu'on lise le droit et qu'on fasse appliquer le droit, mais pas une parodie de droit, puisqu'on les a retenus de façon arbitraire. Alors nous voulons effectivement qu'il y ait réparation.
C'était Marc Mapingu, porte-parole du général Jean-Marie Moko, détenu au Congo-Brazzaville. VOA Afrique continue de tenter d'avoir une réaction des autorités congolaises.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la cité de Sakania connaît depuis quelques mois une pénurie d'eau potable suite à l'assèchement de la rivière Lubembe. Une entreprise minière est blâmée. Reportage sur place de notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila.
Ici, dans la cité de Sakania, depuis la nuit des temps, l'eau coulait dans la rivière Lubembe, qui aujourd'hui s'est asséchée. Et nous sommes à la source Lubembe, à quelques mètres du couvent de la communauté salésienne, où nous avons rencontré le père Deogracias, qui est le père supérieur de la communauté et qui tente de nous expliquer la cause du tarissement. Il est au micro de VO Afrique.
Tout d'un coup, l'eau de la rivière commençait à sécher. L'eau baissait progressivement. Il n'y avait pas de signes avant-coureurs qui montreraient que l'eau sécherait. Dans quelques mois seulement, on a vu que l'eau est descendue avec une vitesse incomparable et incompréhensible. Et l'eau est partie comme ça et ça a vraiment séché jusqu'à ce que les gens commençaient à traverser à pied, à marcher à pied dans le lit de la rivière Lubembe. Les bruits qui courent et les gens qui parlent disent que c'est par rapport à la mine, parce que quand la mine a creusé, ainsi de suite, les trous qui est là a aspiré toute l'eau qui est ici.
La pénurie en eau potable est très visible dans la cité de Sakania, où la population et les ONG pointent du doigt l'entreprise minière Frontier SA, qui est du groupe RG, qui exploite les gisements des Kijiba, qui serait à la base du tarissement de la source. Bonaventure Ngoy de l'ONG Union pour les droits humains et le développement durable de Sakania.
Nous sommes rendus compte que Frontier donc a déjà atteint la profondeur de plus de 350 mètres. Or, la source est environ 12 mètres. La profondeur de la carrière, donc tout l'eau qui s'est déversée sur la source est en train de revenir vers la carrière. Donc, il prend l'eau, il les transfère en Zambie. Alors, c'est ça, nous nous sommes dit que non, c'est Frontier qui l'a bas de ça. Frontier a irrigué l'eau de Lubembe pour les renvoyer là-bas. Oui, et privé la communauté de Sakania.
Entre les lignes, les autorités qui se sont succédées à Sakania, du DIRCAP du ministre des Mines nationales et du ministre provincial de développement rural, tous juristes de formation, chargent diplomatiquement l'entreprise Frontier SA et les met devant ses responsabilités. Localement, le chef des cités, Philippe Chikambi Kansonda, tente d'éclaircir.
Et je ne sais même pas est-ce que c'est une calamité naturelle ou c'est causé par tel ou problème. Mais Frontier, quand il vous montre aussi, il se défend que ce n'est pas la cause de la mine. Mais est-il qu'il y a la mine qui est en fonction là-bas, il y a de l'eau qu'on a fait partir de cette carrière qu'on a projetée en Zambie.
Ici, la guerre de l'eau est à sa genèse, car plusieurs villas sont affectées tout le long de la rivière Lubembe, qui s'étend à une centaine de kilomètres, et entre-temps, l'entreprise garde silence et préfère réparer par le forage de quatre puits dans la cité de Sakania. De retour de Sakania, Narval Mabila, VO Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Sahel, 5 millions de personnes ont besoin d'une assistance militaire. 1,6 million d'enfants sont en risque de malnutrition aiguë sévère et 2,5 millions d'éleveurs et agro-éleveurs ont besoin d'une aide urgente aux moyens de subsistance. C'est une citation et ce qu'a affirmé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial, le PAM. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay, fait le point.
La sécheresse, la flambée des prix des denrées alimentaires et les conflits vont entraîner des millions de personnes dans la faim et la malnutrition dans certaines parties du Sahel si la communauté internationale n'agit pas maintenant. Cette situation est due en grande partie à l'intensification des conflits armés qui perturbent les services de base et les moyens de subsistance, ainsi qu'à la cohésion sociale des populations, comme l'indique Abdou Dien, directeur régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Quand vous regardez les pays du Sahel, vous savez que le terrorisme s'installe et effectivement ça crée de l'insécurité. Cette insécurité fait que beaucoup de personnes qui dépendent de l'agriculture n'arrivent plus à s'adonner à leurs activités traditionnelles. Alors donc, en même temps, il faut faire face à ces problèmes d'insécurité alimentaire, mais aussi il faut faire face aux problèmes d'insécurité tout court.
Dans les six pays, 1,6 million d'enfants risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère cette année, soit une augmentation de 50% par rapport à la dernière crise nutritionnelle majeure du Sahel en 2012. L'insécurité alimentaire, les pratiques alimentaires inadéquates ainsi que le manque d'accès à l'eau potable sont les causes des niveaux élevés de malnutrition chez les enfants. Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, déclare qu'il faut agir vite.
L'action doit être prise maintenant. Trop d'enfants sont à risque. Il ne faut pas attendre qu'ils meurent pour que nous commencions à mettre en place les réponses nécessaires. Il y a une solution. Simplement, il ne faut pas attendre. Chaque enfant doit être détecté. Dès qu'il est détecté, il doit être pris en charge. Et si c'est le cas, les chances de succès seront là. Donc il faut agir tout de suite pour traiter ces enfants et traiter les causes dans le long terme. Maintenir l'accès aux services, maintenir la paix et la cohésion sociale.
L'UNICEF, la FAO et le PAM ont développé une réponse conjointe pour couvrir les besoins alimentaires, protéger les moyens de subsistance et lutter contre la malnutrition à court terme. Kumba Sow, coordonnatrice sous-régionale pour la résilience en Afrique de l'Ouest dans le Sahel, estime que des moyens de riposte sont disponibles.
Le Sahel connaît ses crises. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on vit régulièrement. Et nous savons prévenir maintenant, puisque nous avons des analyses qui nous permettent de savoir combien de personnes seront touchées, où est-ce qu'elles seront touchées. Et de ce fait, on peut mieux se préparer à les assister pour nous assurer que ça ne dégénère pas en une crise, etc.
L'UNICEF, la FAO et le PAM appellent à un soutien urgent de la part de tous les partenaires, y compris les donateurs, pour aider à atténuer la détérioration actuelle dans le Sahel. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Togo, l'autisme est un handicap qui n'est pas suffisamment connu du corps médical du pays, souvent assimilé à la surdité ou à une hyperactivité chez l'enfant. Les pédiatres togolais ont du mal à diagnostiquer l'autisme. Pour les parents d'enfants autistes, seuls les orthophonistes viennent en aide dans le pays. La prise en charge des enfants autistes au Togo, un reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Y a-t-il des enfants autistes au Togo? C'est la question que nous sommes tentés de poser, car dans le pays, il n'existe aucune statistique relative à l'autisme. Cet handicap est méconnu par la plupart des cliniciens. Pour les parents, c'est le calvaire. Djemila Yakubu a dû attendre 8 ans avant que le diagnostic ne soit posé pour son enfant.
Je l'ai su d'ailleurs tardivement. C'est à 8 ans que moi j'ai su qu'il souffre de l'autisme. C'est par le biais d'une amie qui est à l'étranger, qui a aussi un cas pareil à qui j'en ai parlé, qui m'a dit, bon voilà, en fait, ça s'appelle autisme. L'autisme est inconnu de beaucoup. C'est vraiment pénible pour la prise en charge de nos enfants autistes.
Cette maman de deux enfants autistes décrit le cycle de diagnostic de l'autisme au Togo.
Je peux dire que c'est seulement les orthophonistes qui sont venus à mon rescousse, parce que au début, quand tu dis que ton enfant a ça, ça on te trimballe un peu partout chez le neurologue, tout ça là, vous faites des trucs, des scanners, des trucs, on ne voit rien, donc l'enfant est toujours dans son état, et puis après c'est les séances d'orthophonie.
Les difficultés de la prise en charge médicale sont entre autres relatives au manque de personnel qualifié, affirme Carrie Laure Até. Il est orthophoniste et prend en charge des enfants autistes.
Les difficultés sont énorme. D'abord, au niveau des structures de soins, nous n'avons pas encore le plateau technique pour pouvoir diagnostiquer ces troubles-là. Les outils que nous avons aujourd'hui en tant qu'orthophonistes que nous utilisons, ce sont des outils qui sont importés de France et qui ne sont pas adaptés à notre culture ici actuellement. Mais nous essayons de les adapter au mieux à notre culture pour pouvoir poser un diagnostic. Malheureusement, actuellement, au Togo, il n'y a que les orthophonistes qui posent réellement le diagnostic de l'autisme. En plus, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. On n'a pas de psychomotriciens qui vont poser leur diagnostic, les psychologues qui vont poser les diagnostics. Donc, on a un petit souci dans ce sens-là.
Pour la scolarisation, c'est une autre paire de manches.
Pour l'école, c'est pénible. Lorsque vous amenez l'enfant, il est agité, donc il est rejeté. Il est rejeté, on dit qu'il va frapper d'autres enfants. Donc, c'est ce que nous vivons. C'est difficile, il faut faire vraiment le tour pour pouvoir avoir une école pour ses enfants. Mon enfant, bientôt, il aura 10 ans. Il est scolarisé, mais à la maternelle.
Il y a 3 ans de cela, je voulais inscrire mes enfants. Je suis passée par plein d'écoles, ils m'ont chassé. Ils disent qu'ils n'ont pas de place pour mes enfants. Et ils ont 7 ans et 5 ans. La plus petite a commencé par parler, le grand, c'est...
Edwige Bédé, la présidente de l'association Autisme Vivre et Grandir AVEJ, a un grand rêve qu'elle nous dévoile.
Créer un centre spécial pour les enfants autistes et les suivre dès le bas âge. Parce que le suivi précoce leur facilite la vie et facilite la vie aux parents. Comme ça, ils viennent dans le centre, on essaie de leur apprendre l'autonomie, beaucoup de choses comme ça. Après, quand ils veulent aller dans l'école, une école normale, un griffe normal, ils ne seront plus stigmatisés comme cela se fait maintenant et puis ils pourront rester avec les autres enfants.
Dans sa stratégie, l'association Autisme Vivre et Grandir veut apporter une lueur d'espoir aux personnes touchées par les troubles du spectre autistique en combattant la stigmatisation et en assurant le référencement pour le diagnostic et la prise en charge. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la syphilis.
Il s'agit d'une infection sexuellement transmissible qui touche plus de 5 millions de personnes chaque année dans le monde. En l'absence de traitement, la maladie affecte le cœur et même le cerveau.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Gisèle Kilombazeka, médecin à Beni en RDC. Elle nous parlera des causes, des symptômes et surtout des conseils pour éviter ou soigner la maladie.
Nous écouterons aussi le docteur Fanny Malonga, gynécologue en RDC. Avec elle, nous aborderons la syphilis congénitale, une forme de syphilis qui se transmet des femmes enceintes aux enfants. Nous écouterons enfin le docteur Mahindo Alongo Mike Antoine, co-auteur d'une étude sur la question.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.